au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, l'incarnation du Christ notre Seigneur, c'est ce que vous êtes venus méditer lors de cette Sainte Messe. Vous n'avez pas choisi la plus facile, vous êtes donc les plus méritants, car durant les trois messes de Noël, durant la nuit, on médite sur le recensement et l'annonce aux bergers. Et puis, à la messe de l'aurore, ce matin, nous avons célébré de nouveau la Sainte Messe, et c'est les bergers qui vont à la crèche et qui témoignent de ce qu'ils ont vu. Et maintenant, la liturgie dans cette messe du jour, maintenant que nous sommes bien réveillés, nous invite à un point très théologique, à méditer l'incarnation du Christ. L'incarnation du Christ, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre au sens propre du terme, c'est-à-dire prendre en nous complètement. C'est un mystère trop grand. Nous ne pouvons que l'approcher, le découvrir et pénétrer petit à petit sa signification qui nous sera pleinement révélée quand dans notre corps nous serons glorifiés comme Dieu. Alors je vous propose de voir d'abord l'événement unique de l'incarnation dans l'histoire, pour ensuite voir le motif de l'incarnation, ce que ça produit. Tout d'abord, le moment unique de l'incarnation dans l'histoire. C'est ce moment unique que nous répétons de Noël en Noël, tellement il est extraordinaire, tellement il est unique, tellement il est incroyable. À chaque Noël, nous voulons revenir à la crèche et nous dire « Le Seigneur s'est fait homme ». Je ne commenterai que les deux mots suivants, enfin les trois mots exactement. « Au commencement était le Verbe ». Au commencement, c'est-à-dire au commencement du monde, avant notre propre commencement. Le Christ existe de toute éternité. Le Christ n'est pas dans le temps. Le Christ est Dieu. C'est-à-dire, il existe indépendamment du temps. Et c'est lui qui a présidé à la création du monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais voilà, lors de l'incarnation, le Christ est descendu dans le temps. C'est ça qui est incroyable. C'est la conjonction de l'éternité avec le temps. C'est la conjonction de l'impassible avec le passible. C'est la conjonction de Dieu avec nous. À ce moment précis de l'incarnation, Dieu a touché vraiment le monde, c'est-à-dire qu'il y est entré, il s'est fait l'un de nous. Enarché, c'est-à-dire au commencement, in principio, on l'a chanté en latin, au début, au principe de toute chose, au commencement est Dieu, eh bien c'est le même mot que saint Jean utilise ici pour nous dire c'est de nouveau un commencement l'incarnation du monde. C'est de nouveau un renouvellement du monde. C'est ici le sommet de l'histoire, c'est ici le moment unique, tout est accompli. Nous avons de la chance, nous pouvons recommencer. Et à chaque fois que nous sommes plongés, nous, dans le Christ, nous recommençons nous-mêmes. Les chrétiens ne peuvent pas être prétentieux parce qu'ils savent qu'ils vont de commencement en commencement, de début en début, quel que soit votre âge. Il nous faut recommencer à naître de l'Esprit. Voilà pour ce commencement, cette bonne nouvelle que nous fêtons à chaque Noël, qu'il est possible de recommencer notre vie avec le Christ. Et lui qui est le Verbe et qui est vraiment. Le Verbe, le Logos, c'est-à-dire un Verbe construit, un Verbe raisonné, voilà encore un secret que les chrétiens détiennent sur beaucoup d'autres religions. Nous savons que Dieu n'est pas irraison, n'est pas irrationnel, n'est pas un truc incompréhensible. Dieu est Logos. Dieu est ordre. Il a ordonné le monde dans un parfait commencement et un parfait déroulement. Oui, nous sommes joyeux de savoir que le Verbe divin qui a tout créé est venu parmi nous. Ce n'est pas un enchevêtrement de paroles, c'est la parole. C'est la parole de Dieu, celle qui, par sa simple profération, a créé l'univers. Il a voulu que les choses soient et elles furent. Car il est vraiment. En adorant le Seigneur à genoux, devant la crèche, vous dites clairement « Je sais qu'il existe, qu'il est éternellement et qu'il est vraiment celui qui s'est adjoint l'humanité. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Parce que nous, humainement parlant, on n'y arrive pas. Quoi que j'adjoigne à mon corps, cela devient moi-même. Si vous mangez un œuf, si je mange un œuf, ce n'est plus l'abbé Laurent et un œuf, c'est tout ça, ça devient l'abbé Laurent. Pourquoi? Parce que quand moi, qui suis fini, je prends quelque chose en moi-même, je le détruis, je l'écrase. Eh bien, Dieu n'écrase rien. En Dieu, il y a une place infinie. C'est pourquoi il a pu prendre notre humanité sans la réduire. Dans les premières années du christianisme, certains ont proféré des hérésies sur ce point, en se disant « mais c'est pas possible, un Dieu qui est infini, qui est tout-puissant, etc., il ne peut pas venir dans un homme. Il va le réduire en cendres, il va le détruire. Alors au mieux, il a dû prendre une enveloppe pour faire semblant un petit peu comme ça d'être parmi nous. » Eh bien non. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est vraiment venu dans l'humanité, il s'est fait un homme sans le détruire. Et c'est une drôlement bonne nouvelle, mes frères, pour nous. Ça veut dire que au jour où nous rencontrerons Dieu, nous ne serons pas, comme le croient les hindous, pulvérisés par l'énergie matérielle originelle. Nous ne serons pas réduits à rien. Non, Dieu est infini et en lui, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes tous invités à nous adjoindre à Dieu sans désexister. C'est l'inverse. Lui qui est l'être même, eh bien, il va nous donner la vie et il va nous adjoindre à lui, il va nous diviniser sans nous détruire. Voilà mon premier point, je vous avais promis que ça serait théologique, je crois que j'ai tenu promesse. Voyons le deuxième point, il ne l'est pas moins. Le deuxième point, c'est, si nous nous réjouissons comme ça, c'est que le Seigneur est venu pour une raison très précise. Il est venu pour nous sauver. Il n'y a pas d'autre nom sur terre par lequel nous devions être sauvés. C'est les Actes des Apôtres qui disent cela, au chapitre 4. C'est-à-dire que c'est tout le rôle du Seigneur d'être venu pour nous sauver. Mais ça veut dire qu'il faut que vous acceptiez ce dont plus personne ne veut parler aujourd'hui, parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Il y a le péché. J'espère que vous le savez. Il y a eu le péché dans le plan de Dieu. Cela ne l'a pas arrêté. Mais le péché est vraiment intervenu. Il a touché notre nature humaine et il nous a détruits. Et si Dieu n'était pas intervenu dès le début, nous serions retournés au néant. Car le mal est une absence de bien et tout péché que nous faisons nous détruit, nous désexiste. C'est pas très beau en français, mais c'est de la philosophie. C'est-à-dire que le péché est un puits sans fond qui nous enfonce dans le néant. Eh bien, le Seigneur est venu pour nous racheter. Et nous racheter dans notre nature. Oui, le péché originel qui se transmet, qui nous unit tous les uns aux autres, qui fait qu'il y a en moi une faiblesse native, eh bien, le Seigneur est venu le guérir. Vous n'avez qu'à lire l'Évangile partout. L'ange a dit à Marie, il viendra pour sauver son peuple. Siméon a dit à Marie, voici, j'ai vu le salut. Jean-Baptiste a dit, c'est l'agneau de Dieu venu pour porter les péchés du monde. Le Christ lui-même, pour ne faire que 4 citations, il y en a plein partout dans l'Évangile, le Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Bref, il n'est pas venu se promener, il n'est pas venu se montrer, il est venu nous sauver. C'est-à-dire, c'est une preuve d'amour. Au Moyen-Âge, on s'était posé la question, communément, tout le monde, dans la rue, presque, se posait la question. Uti homo non peccasset, si l'homme n'avait pas péché, est-ce que le Seigneur serait venu? Alors les uns disaient, ben oui, il serait venu parce que il fallait qu'il vienne. Eh bien non. Eh bien non, il ne serait pas venu. Parce que si l'homme n'avait pas péché, et que le Seigneur soit quand même venu, ça veut dire que la création n'était pas parfaite. Mais c'est idiot. Eh oui. La création était faite pour aller vers Dieu naturellement. Le péché nous en empêche. Alors le Seigneur est venu nous refaire, nous reconstituer, et tout à l'heure, quand vous allez communier, vous allez entrer en Dieu qui va vous refaire, qui va vous recréer beau comme au jour de votre naissance, beau et belle comme le petit enfant que vous allez adorer à la crèche. Car il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que nous récupérions le dynamisme qu'il y a en Dieu, c'est-à-dire la vie elle-même. Il est cette lumière. Alors bien sûr, cela va se faire dans un combat, jusqu'à la fin du monde. Mais rassurez-vous, le combat est déjà gagné. Ce tout petit enfant dans la crèche a déjà gagné le combat du monde. De la crèche au crucifiement, il a rempli son ministère et nous sommes sauvés. Bien sûr, il nous reste, nous, à vivre jusqu'au bout notre vie humaine pour aller vers lui, car non seulement le Seigneur a voulu nous sauver dans notre humanité, mais en plus, il a voulu respecter cette humanité qu'il avait lui-même créée. Il aurait pu décider de dire « Bon, c'est bon, je les sauve. Terminé, n'en parlons plus. » Nous aurions été sauvés comme on sauve des plantes ou des animaux. Eh bien non. Le Seigneur est venu dans notre nature et il va laisser notre nature s'exprimer. La grâce parfait la nature, elle la suppose, elle ne la détruit pas, elle l'élève. C'est-à-dire que par votre effort de chaque jour, par votre volonté libre du bien, vous allez coopérer à cette incarnation en vous de Dieu, vous allez coopérer à la divinisation en vous du Seigneur. Quelle magnifique vie nous est offerte. Nous nous réjouissons bien sûr, une fois de plus, comme dans un anniversaire, on se réjouit qu'on nous ait donné la vie. Eh bien, réjouissons-nous profondément qu'on nous a donné la vie et qu'en plus, maintenant, nous allons pouvoir l'exercer librement, aller vers Dieu pour lui rendre gloire. Ainsi soit-il.